tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche, animée par Jean-Paul et Marie-Christine de Vels. Bonjour Jean-Paul.
Bonjour Marie-Christine et bonjour à tous.
Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends l'autre joue. Tout le monde connaît cette formule. Donc nous allons la resituer aujourd'hui dans son contexte et essayer de voir ce qu'on peut en penser, parce que j'avoue que ça nous choque, hein, ça nous met un petit peu mal à l'aise comme remarque. Donc cette citation est entre autres dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 27 à 49. « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Et comme vous voulez que les hommes agissent envers vous, agissez de même envers eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Car les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Les pécheurs eux-mêmes en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendent, quelle reconnaissance vous en a-t-on ? Même des pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez généreux comme votre Père est généreux. Ne vous posez pas en juge et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Acquittez et vous serez acquittés. Donnez et on vous donnera. C'est une bonne mesure tassée, secouée, débordante qu'on vous versera dans le pan de votre vêtement, car c'est la mesure dont vous vous servez qui servira aussi de mesure pour vous.
Quelqu'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. Tout le monde connaît cette phrase, même les non-croyants, qui en profitent d'ailleurs pour sourire et traiter la religion chrétienne de douce utopie. Et vous, que pensez-vous de ce commandement ?
Si nous suivons les uns et les autres ce commandement à la lettre, je pourrais vous gifler les uns après les autres. Est-ce que vous vous ferez une joie, un plaisir de me tendre l'autre joue ? Et si vous suivez ce commandement à la lettre, je devrais lire sur vos visages un sourire radieux. On peut aussi inverser les rôles. Si à la suite de ce discours, vous venez me montrer votre force, votre dextérité du poignet, est-ce que je vais tendre la première puis la seconde joue ? C'est une question.
Or, si nous voulons être fidèles à l'Évangile, disciples de Jésus-Christ, ne devons-nous pas nous laisser frapper? Si nous suivons ce commandement à la lettre, c'est bien ce qui nous est demandé. Cela étant, avant d'être disciples de Jésus-Christ, si nous réfléchissons raisonnablement à cette demande, nous pouvons tout aussi raisonnablement douter de sa performance et de son efficacité. En effet, est-ce que le fait de recevoir des gifles du soir au matin va aider notre personnalité à se construire? Est-ce que cela va fortifier notre conscience d'être?
Tu reçois des gifles? Eh bien, laisse-toi faire. Longe encore mieux les murs, rampe toujours plus. Si vous dites cela à vos enfants, mis à part les notes de médecin et les factures des magasins de vêtements, vous aurez un autre problème, c'est celui de leur identité.
Comment voulez-vous que votre enfant grandisse, s'épanouisse? Comment voulez-vous que vos rêves de le voir bien sous tout rapport, c'est-à-dire bon père ou bonne mère plus tard, bon époux ou bonne épouse, bon citoyen ou bonne citoyenne, comment voulez-vous que ces rêves légitimes deviennent réalité? La Bible nous imposerait-elle des lois allant à l'encontre de l'épanouissement de l'individu? Que faire dans la cellule familiale?
Si votre enfant donne un coup de poing, l'invitez-vous à continuer? S'il arrache la tapisserie, entaille les fauteuils, jette les assiettes par la fenêtre, allez-vous applaudir? Nous avons donc face à nous, devant nous, ce commandement connu de tout le monde, du grand public, et qui ne contient aucune ambiguïté. Lorsque tu es giflé, tends l'autre joue. Et en même temps, nous avons ce questionnement sur sa performance, son efficacité et son bien fondé. Comment éduquer nos enfants sans les confronter à des refus?
Radio Grand Ciel avec à la technique Simon Martin, l'émission de l'Église protestante unie de Chartres, Beauce-et-Perche. Nous vous parlons aujourd'hui d'un texte difficile à comprendre. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue. Les intermèdes musicaux sont des extraits des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach avec au clavecin Céline Frisch. Donc nous devons essayer de creuser, de penser cette apparente contradiction, ce non-sens flagrant, en élargissant un peu le champ de notre réflexion et nous pencher sur la Bible dans son entier. Je veux dire sur le rapport que nous avons avec la Bible. Les protestants donnent plus que les autres communautés chrétiennes un rôle initial, fondateur, premier à la Bible. La Bible, c'est la source et c'est la référence de notre foi. Or, la Bible contient elle aussi d'apparentes contradictions, des manques de cohérence. Voici notre commandement de ce matin, tant l'autre joue, et pourtant nous pouvons lire dans l'Évangile, selon Jean, le passage où Jésus s'énerve quelque peu face aux marchands du temple.
En effet, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 2 et au verset 15, nous pouvons lire « Alors Jésus fait un fouet avec des cordes. Il chasse du temple tous ces gens-là, il jette par terre les pièces de ceux qui changent l'argent et il renverse leurs tables. » Pour un convaincu de la non-violence, c'est une réaction un peu gênante. Pour un rabbin, un sage, qui nous exhorte à ce « tant l'autre joue », cela fait un petit peu mauvais genre, vous en conviendrez. Alors, bien je crois que toutes nos réflexions et toutes nos réactions face à la Bible sont conditionnées par le rapport, par les relations de lecture que nous avons avec elle.
Et pour faire simple, je distinguerai en fait deux types de lectures. Soit une lecture qui se veut idéale, pure, vraie, qui est à mon sens mythique, fondamentaliste, car elle croit prendre au compte l'ensemble de la Bible, soit au contraire une lecture qui admet sa partialité, sa finitude, mais qui aspire néanmoins à construire et à fortifier la foi de chacun.
Le premier type de lecture considère que chaque idée émise, chaque affirmation, chaque mot, chaque signe de ponctuation ont été voulus, décidés par Dieu. Dieu a décidé de la totalité de la révélation écrite. La Bible serait une communication directe de Dieu à l'homme. La conséquence est que toutes les pages de la Bible doivent être lues, appréciées, commentées avec le même intérêt. Toutes les pages de la Bible sont mises sur le même plan, puisque toutes les pages sont paroles de Dieu.
C'est ainsi que certaines sectes expliquent qu'ils ne mangent pas de sang parce que c'est inscrit dans le livre du Lévitique. La lecture fondamentaliste, c'est tout ou rien. C'est prendre, lire la Bible avec les mêmes lunettes de la première à la dernière page. Cette lecture-là est, à mon point de vue, un leurre.
Un leurre parce que nous ne recevons pas toute la Bible sur le même plan. Tel et tel enseignement vont être plus importants pour nous que tel ou tel autre. Telle notion va nous parler et d'autres pas. Avant Albert Schweitzer, c'est-à-dire au début de ce siècle, nous n'avions pas pris conscience de l'importance donnée par Jésus-Christ au royaume de Dieu. C'est Schweitzer qui a fait remarquer que beaucoup de propos de Jésus étaient préoccupés par le royaume. Nous agissons, nous lisons la Bible avec ce que nous sommes, et notre entité conduit une lecture propre, personnelle. Chaque page n'a donc pas pour nous la même dimension, et c'est une absurdité de faire comme si.
Cette façon de lire la Bible, donc, est un leurre, car même si la Bible est inspirée par Dieu, entre l'Ancien Testament et Dieu, il y a les prophètes, les apocalyptiens, entre le Nouveau Testament et Dieu, il y a les évangélistes, Paul, c'est-à-dire des hommes de chair et de sang, les hommes qui ont leur propre structure mentale, leurs propres caractéristiques. Ce n'est pas pour rien que l'évangile selon Marc nous apparaît court et celui de Luc plus fouillé.
Nous devons prendre en compte les caractéristiques de chacun, comme nous devons aussi prendre en compte la culture dans laquelle il vivait et non nous transformer en machine à lire. La lecture fondamentaliste est un leurre parce qu'un canon regroupe une pluralité de textes, une pluralité de théologies. Le canon, c'est une totalité. Et ce tout est composé de textes qui forment un corps, qui aspirent à l'unité tout en restant hétérogène.
Cela nous amène à vous proposer donc une autre façon de lire la Bible, une façon de lire la Bible qui est reçu comme un canon inspiré, mais qui soutient aussi que la parole de Dieu n'est pas la Bible, mais qu'elle est, comme le dit Karl Barth, dans la Bible. Cette typologie accepte aussi deux autres évidences. D'une part, que le texte biblique est quelquefois lourdement humain, et d'autre part, que nous faisons nous aussi des choix. Nous ne sommes pas neutres dans notre lecture. Nous avons tous quelque part une idée sur Dieu, une théologie, et nous avons tous des versets, des paroles de Jésus, des livres bibliques que nous privilégions. C'est ainsi que Luther dira dans la préface au Nouveau Testament en 1522, l'évangile de Jean, les épîtres de Paul, notamment celle aux Romains, et la première épître de Pierre sont le véritable noyau, sont la moelle de tous les autres livres.
Tout ceci pour vous dire qu'il faut toujours et encore analyser notre rapport, notre lecture de la Bible, et qu'il faut être conscient que nous n'avons pas à jouer aux puristes parce que nous n'en sommes pas. Bon, pour fermer la parenthèse, et si nous admettons que nous faisons cette dernière lecture, il faut aussi reconnaître les risques encourus. Le principal est celui d'une distance, d'un écart entre l'esprit de l'Évangile et ce qui est pour nous fondamental, premier, indispensable. Quels versets construisent la charpente de notre maison, de notre lecture ? Si vous sublimez, si vous rendez incontournables les commandements concernant la pureté et l'impureté du livre des Lévitiques, n'êtes-vous pas dans l'erreur ? Alors peut se poser maintenant, après cette mise à plat, la place du texte, de ce texte d'aujourd'hui.
Comment devons-nous intégrer le temps l'autre jour dans notre lecture de la Bible ? Quelle place lui donner ? Première ou seconde ? Décisive ou dérisoire ? Si nous attachons à l'esprit de la Bible et de l'Évangile, comment articuler ce verset dans notre foi ?
Ce verset est en fait une loi. Comme dans l'Évangile de Marc au chapitre 12, verset 29, voici le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme si quelqu'un n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Ne jugez pas, aimez vos ennemis. L'un des rôles de la loi est de montrer notre insuffisance, notre insignifiance. Nous n'arriverons jamais, même en faisant des œuvres du matin jusqu'au soir, à gagner notre salut.
Nous n'arriverons pas à atteindre une sorte d'état de quasi-perfection. Le salut, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'annonce que nos péchés sont pardonnés, qui nous libère des prisons de la culpabilité, du remords et du désarroi. Le salut, l'annonce de la bonne nouvelle, le pardon de Dieu, le pardon de nos péchés, nous est donné gratuitement, sans condition, par Dieu. L'annonce du pardon est donnée par grâce seule. Dieu veut que nous soyons des sortes de spéléologues de l'existence et non des fatalistes. Il nous pardonne, donc marchons. Tous ces commandements sont donc le signe que nous serons toujours insuffisants, mais que Dieu est là. C'est là l'un des rôles de la loi.
Ensuite, le Dieu que nous prêchons est d'abord le Dieu qui est du côté des vaincus. Il est le Dieu des démunis, des faibles, le Dieu des béatitudes. Heureux les pauvres. Cela ne veut pas dire heureux que vous soyez pauvres, heureux que vous n'ayez rien à manger, mais cela veut dire que Dieu est d'abord avec les pauvres. Ce que vous ferez au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous le ferez.
d'abord du côté des sans-abri. C'est le Dieu de la crèche et de la croix. C'est le Dieu qui est présence et partage sur notre chemin, notamment aux heures de souffrance et d'épreuve. Dieu est d'abord le Dieu des démunis, des coléreux, des disgracieux. On peut se révolter, c'est ainsi. Comme le relevait Laurent Gagnebin dans tout l'évangile de Luc, Jésus déclare à 4 reprises « Ta foi t'a sauvé ».
Or, cette déclaration, il l'a fait pour des malades. C'est d'abord dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, une femme, une prostituée, versant des larmes et du parfum sur les pieds de Jésus au cours d'un repas chez Simon le pharisien. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, une autre femme, malade, considérée comme impure à cause d'une perte de sang soignée en vain depuis des années, touchant le bord du manteau de Jésus et miraculeusement guérie. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, un lépreux samaritain, lui aussi impur, rejeté, étranger. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, un malade, un mendiant aveugle. Jésus annonce à ces 4 personnes « Ta foi t'a sauvé ». Le Dieu que nous prêchons est d'abord celui qui nous dit « Les premiers seront les derniers ». Et en ayant présente ces 2 réalités, d'une part la loi qui nous montre l'homme fini, limité, partiel et partial, imparfait, d'autre part ce Dieu qui est d'abord avec les prostituées avant d'être avec les bonnes gens, comment saisir ce commandement tant l'autre joue ?
Je crois qu'il faut bien voir que l'Évangile est une folie. Évangile comme folie, pourquoi ? Car tout le message de l'Évangile tend vers un royaume, royaume compris comme un état et peut-être un lieu. Nous allons vers ce royaume comme nous allons vers la loi. L'Évangile est révolutionnaire. Le critère de grandeur pour Dieu n'est pas le même que le nôtre. La grandeur est autre que le pouvoir qui s'impose. Elle n'est que puissance d'amour et de persuasion. Le royaume, c'est la nouvelle charte qui abolit tout rapport de force et donc tout désir d'acquérir et de préserver des privilèges pour seulement être avec et partager. Grandeur égale puissance d'amour. Nous comprenons alors le « aimez vos ennemis », le « ne jugez pas ». Jésus nous décrit là un état de perfection, un état vers lequel nous devons tendre. Donc nous devons tendre à tendre l'autre joue.
Et il faut prêcher ce caractère complètement fou, complètement irrationnel, complètement révolutionnaire de l'Évangile. Nous sommes d'abord les ouvriers d'un monde auquel nous ne pouvons humainement penser. Nous avons donc à trouver notre éthique, notre morale, à décider de nos conduites à partir de cette réalité évangélique. La seule raison humaine nous engloutit dans le factice, dans l'arbitraire, les fausses sécurités.
Alors bien sûr, il est vrai que nous ne pouvons pas vivre ce commandement tant l'autre joue à la lettre, chaque seconde, car il est humainement insensé. Mais il est encore plus profond, encore plus riche, encore plus vrai que l'absence de cette grandeur de Dieu nous plonge dans l'obscurantisme le plus épais. Quelques régimes politiques, fondés sur le bon sens humain, car il était, paraît-il, le seul bon sens valable, ont enflé l'orgueil de leur peuple et l'ont transformé en animal qui tue tout sur son passage. D'autres régimes politiques provoquent de la charpie.
Oui, il y a cette folie de l'Évangile. La grandeur est autre que le pouvoir qui s'impose. La grandeur, notre grandeur, c'est notre puissance d'amour, c'est la puissance d'amour de Dieu. Et cette folie ouvre un nouvel espace de réalité, de dialogue, de discussion. Cette folie coupe, rompt, brise notre réalité quotidienne et lui donne vie, la transfigure. Devenons donc un peu plus fous dans nos projets paroissiaux et dans nos projets de vie personnelle. Le message de l'Évangile est l'annonce d'une autre approche du monde et des hommes. Et c'est une belle histoire, c'est vrai. C'est celle d'un Dieu qui se fait homme pour nous dépoussiérer, nous mettre en marche. Et c'est maintenant à nous l'approprier. Amen.
Amen.
Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches matins à 10h30 au temple 20 rue Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.
Au revoir et à bientôt.